France Inter.
Journaliste spécialisée dans le crime et les faits divers, auteur et réalisatrice de séries et de documentaires, Patricia Touranchot a travaillé pendant 29 ans à la rubrique Police-Justice de Libération, dont 25 ans à Paris. Libération, journal pour lequel elle a suivi les affaires criminelles les plus notoires. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages décortiquant de célèbres affaires, tels que Les Postiches, un gang des années 80, Guy Georges, La Traque, ou Grégory, La Machination Familiale, récemment ressorti en poche en version revue et augmentée. Après avoir longtemps enseigné, elle multiplie médias, documentaires, séries et ouvrages. Elle vient de faire paraître une anthologie de 69 histoires de criminels, flics, bandits, espions, évadés, kidnappeurs ou légistes au seuil, sous le titre rubrique Faits divers, une passionnante plongée dans les bas-fonds de l'âme humaine, explorant l'éternelle et insoluble question du mal. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Patricia Touranchot.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Oula ! une soirée, la soirée des 50 ans de la brigade de répression du banditisme. Rue du Faubourg Saint-Honoré, avec tous les anciens flics, vraiment les vieux poulets qui sont à la retraite depuis très longtemps, dont certains avec des cannes et tout. Et puis les jeunes qui ont pris la relève. Et du coup, toute la soirée, on a bu du pastis notamment.
Ah, ça, c'est votre marque de fabrique.
Du champagne un peu. J'ai discuté avec tous ces anciens poulets d'affaires anciennes, d'affaires récentes et tout ça. Je travaillais en même temps, je prenais des notes dans mon petit carnet.
Ah, donc les fêtes sont du travail?
Oui, les pots de la BRB, c'est du travail. Et les soirées avec des policiers, c'est aussi du travail quand même. C'est l'occasion de prendre des contacts, d'actualiser, de reparler d'histoires dont ils ne me parleraient pas ailleurs.
Et c'est là qu'on développe son art de boire du pastis ?
Il paraît que j'en buvais un petit peu avant de commencer cette rubrique à Libération à Paris en 90. Mais ça a accentué quand même le fait de côtoyer ces milieux très masculins. Ce sont des brigades, l'anti-gang, la BRB, la crime, etc. C'était des brigades très, très masculines. Et il y avait peu de femmes à l'époque, à part la commissaire Martine Monteil. Et du coup, il faut faire partie, pour faire partie de leur monde, tout en restant journaliste, il faut quand même avoir des moments de convivialité, entre guillemets, et donc trinquer au pastis, ça en fait partie.
Est-ce que vous tapez toujours avec vos index en fumant comme un auteur de polar américain ?
Exactement. Je tape avec un seul doigt.
Pourquoi
avec
un seul ?
Moi, je sais pas. Je suis pire que les flics ou les gendarmes qui tapent au moins avec deux doigts. Et moi, je tape avec mon index droit.
Mais ça prend des heures.
Non, mon doigt connaît le clavier par cœur et je tape à une vitesse pas possible.
Ah bon ?
Ah oui, il connaît tout par cœur. Et par contre, du coup, de la main gauche, je tiens ma cigarette.
Bah
et
oui.
J'ai les cendriers débordants.
Et le pastis.
Même malgré la loi Evin. Non, le pastis, c'est le soir. Faut pas exagérer. Je vais pas écrire toute la journée en buvant du pastis.
D'ailleurs, les meilleurs écrivains qui avaient le goût pour l'alcool, beaucoup d'entre eux écrivaient sobres.
Ouais.
Il y en a très peu qui écrivaient alcoolisés. Alors, Patricia Touranchot, vous avez été forgée par les éclaireurs de France.
Exactement. Quand j'étais petite, je faisais partie des Louveteaux, et donc après des éclaireurs de France. C'est très formateur, c'est laïque. Et parce que tous les week-ends, on partait dans les bois, on faisait des grands jeux pas possibles, mais des jeux de piste, énormes, la nuit, avec des lampes, etc.
Vos premières enquêtes ?
J'étais dans l'ambiance un peu glauque et inquiétante et énigmatique, et j'adorais cette ambiance de camarade aussi.
Mais vous étiez chef de l'équipe des kangourous ?
J'étais chef
d'une légende.
Non, c'est vrai. J'étais avec ma copine Pascale Simonet, on était toutes les deux chefs de l'équipage des kangourous, et notre slogan c'était, alors nous on disait kangourou agilé, et les autres filles répétaient sauteur, kangourou agilé, sauteur.
Ça vous
c'est
correspond ?
Totalement ridicule, bah, je ne sais pas, oui, peut-être.
Mais alors aujourd'hui, vous n'êtes plus un kangourou, vous portez l'alias de poulette.
Alors, il y a plusieurs alias. Poulette, c'est par rapport au 36 quai des Orfèvres, les poulets, les donc poulettes. Mais j'ai un autre surnom qui est Postichette, parce que le gang des postiches.
Ah, bien sûr.
Et puis, j'ai Patou, et puis...
Patou, pourquoi Patou ?
Patou, parce que Patricia Patou, oui. Voilà. Il y a plusieurs. Il y en a eu un autre aussi qui était Pamela. Parce que c'était, voilà, c'était un pseudo utilisé à un moment donné. Et voilà, il y en a plein d'autres.
Je ne vous demanderai pas tout. D'où vient votre intérêt pour la face sombre de l'humain ?
Franchement, je ne sais pas. Je pense que j'ai toujours eu ce goût-là. Et qu'en même temps, j'ai eu l'impression, quand j'arrivais en stage à Libération en mai 1985, j'étais petite stagiaire, je faisais mes études à l'UT de journalisme à Bordeaux, et j'ai eu l'impression que les faits divers me tombaient dessus. Voilà, mon chef m'envoyait couvrir deux faits divers que j'ai adorés, surtout la deuxième histoire, qui était celle d'un papy à la ramasse, qui avait entassé 8 tonnes de journaux chez lui. Enfin, c'était une histoire formidable dont j'avais fait une page entière, la directrice de l'IUT de Bordeaux m'a dit que lorsque j'ai passé l'oral du concours, je leur avais déjà dit, soi-disant, moi ce que je veux faire, c'est les faits divers à Libération. Donc je pense que ce goût remonte à très loin, je ne sais pas exactement expliquer pourquoi, mais en tout cas, voilà, l'humain, l'empathie, enfin, le goût des histoires, des énigmes, des intrigues, des enquêtes policières, et puis des gens qui sont derrière, ça vient de très loin.
Et vous dites que vous interdisez, je le dis parce que c'est important pour vous, le voyeurisme, le glauque et les reconstitutions avec des acteurs. Justement, tout ce qu'on peut voir dans certaines émissions racoleuses.
Alors, je m'interdis les reconstitutions avec les acteurs de scènes de crimes sanglantes. En revanche, on peut, je veux dire, une scène des gars qui pètent les coffres forts.
Oui.
On l'a fait pour la série Le Magot avec le réalisateur Pierre Chassagneux. Voilà, c'est des trucs qui mangent pas de pain, ça on peut. Mais oui, moi je m'interdis et je trouve ça atroce de voir dans certaines séries des reconstitutions, mais de scènes d'étranglement, de scènes de couteau, de avec du sang, avec des corps. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible par rapport aux victimes. Faut toujours penser que derrière toutes ces affaires, même quand elles nous intéressent, qu'elles nous passionnent et tout, parce que l'intrigue, parce que le tueur en série, parce que le bandit, bah derrière, il y a quand même des victimes. Et ça, faut jamais l'oublier.
Est-ce que avoir autant sondé le pire chez l'être humain, ça vous rassure ou ça vous effraie ?
Ni l'un ni l'autre. Franchement, ça ne me rassure pas et ça ne m'effraie pas. C'est comme ça. Je veux dire, la vie, elle est comme ça. Il n'y a pas que du rose, il n'y a pas que du noir non plus, mais enfin, il y a aussi
d'ailleurs
du noir.
Mmh.
Et il faut accepter les deux. Et moi, mon métier, mon intérêt, c'est de creuser les dessous de la société qui sont souvent assez noirs. Mais là-dedans, il y a toujours une lueur d'espoir, il y a toujours une lueur d'humanité, il y a toujours... donc c'est ce qui me porte.
D'ailleurs, vous dites que vous cherchez toujours derrière le criminel l'humain. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas le trouver ?
Il m'est arrivé d'avoir du mal à trouver l'humain derrière le crime, notamment chez le couple de Michel Fourniret, oui, et Monique Olivier, ce tueur en série des Ardennes qui capturait des jeunes filles vierges pour les violer et les tuer, avec l'aide de sa femme, Monique Olivier, alors même que celle-ci était enceinte ou avec un bébé à l'arrière du véhicule. Ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver de l'humain derrière. Mais malheureusement, ils en font partie aussi de l'humanité. Mais c'est dur, là, il faut faire vraiment un gros, gros effort.
Oui, et puis ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est le romantisme macabre qui les liait tous les deux. C'est-à-dire que lui avait dit « tu rabats des jeunes enfants pour moi, et moi, en échange, je te venge de tous tes amours malheureuses ».
Ouais, exactement. En fait, ils avaient passé un véritable pacte criminel à travers des lettres envoyées, échangées en prison. Et à l'intérieur de ces lettres pseudo-romantiques où Fourniret appelle Monique Olivier ma mésange, Natouchka, elle l'appelle Cherkane. comme le tigre du livre de la jungle. Et petit à petit, voilà, elle se plaint des hommes qu'elle a eus par le passé, dont un l'aurait battue, et lui promet de tous les zigouiller, ces mecs-là. Et en échange, il faut qu'elle lui capture des jeunes vierges. Ça, c'est fou quand même que ce soit écrit. Et voilà, elle accepte de le seconder, elle le dit dans une lettre. J'accepte, mon fauve, de te seconder, de t'aider dans...
Et on n'est pas sûr qu'elle l'ait secondée. Ça, c'est encore... On se demande parfois si ce n'est pas elle qui était le cerveau principal de
Non, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas Monique Olivier le cerveau du couple. Et celui qui viole et qui tue, c'est Michel Fourniret. Donc, il faut remettre les choses en place. Il a été dit, à un moment donné, qu'elle avait un QI plus important que lui. Ce n'est pas vrai. Les expertises étaient faussées. Donc, elle est très perverse. C'est vrai. C'est pas c'est une fausse soumise. Elle n'est pas passive, mais ce n'est pas elle le cerveau du duo.
Et ben vous voyez, là, j'ai été victime de ce dont beaucoup de lecteurs sont victimes. Et d'ailleurs, d'autres lecteurs ont été victimes de la même chose pour l'affaire du petit Grégory, mais ça, on en parlera dans un instant.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Je suis avec la journaliste Patricia Touranchaud, spécialiste des faits divers. Et avant d'évoquer votre ouvrage, faisons un peu connaissance. Abordons votre enfance. Vous avez perdu votre père à 13 ans. Vous dites parfois que c'est ce décès qui vous a permis d'apprendre à affronter des histoires difficiles. Et il faut vous imaginer élevé au milieu des chauffeurs et des mécaniciens. Je voulais savoir si ça avait facilité votre audace, puisqu'il fallait déjà s'affirmer toute petite dans un monde plutôt masculin.
Ouais, c'est surtout ma mère qui était veuve avec trois filles, qui a dû, elle, s'imposer à tous ces chauffeurs et mécaniciens.
Elle conduisait des bus de
ramassage
scolaire.
Elle conduisait les cars, ouais, pour les ramassages d'ouvrières des usines ou des élèves des collèges et des écoles. Moi, je ne sais pas si ça a joué. Ce qui a joué, c'est le décès de mon père, parce qu'il a fallu se débrouiller. Il a fallu aider ma mère, s'occuper des deux petites sœurs, et puis prendre très vite mon autonomie, quoi. Donc ça m'a donné une force de dingue. Et sûrement une envie de revanche sur cette injustice, quoi.
Il n'y avait pas de livre à la maison et les maîtresses d'école ont été déterminantes parce qu'elles vous ont fait lire. Vous étiez très bonne élève, surtout en composition française. Des prix d'excellence qui vous ont permis d'obtenir d'ailleurs vos premiers livres qui sont toujours dans votre bibliothèque, je crois.
J'ai toujours ces prix d'excellence que j'ai eus en maternelle, hein, genre grande section maternelle, CP. Ouais, c'est des livres genre Le Petit Mexicain, Taco le Petit Mexicain.
Le Petit Esquimau.
Petit Esquimau aussi, ouais. Mais après, il y avait quand même quelques livres chez moi, et ma mère m'en a rapidement acheté, enfin, dès que j'ai su lire à 6 ans, ma mère m'en a acheté des Bibliothèques Roses.
Alors, je crois qu'en septembre 2018, à la demande de votre mère, il y a eu quelque chose d'assez émouvant, une séance de dédicace à l'Hyper-U de votre ville natale à Chantonnay en Vendée. Vous pouvez le raconter ?
Oui, exactement. Bah, en fait, ma mère voyait que j'allais dans des salons du livre, des festivals un peu partout en France. Et elle m'a dit un jour, Patou, t'aimerais pas venir à la librairie, tu sais, la libraire de l'Hyper-U de Chantonnay. Elle a tes livres, elle les achète, elle les vend. J'ai dit, bien sûr. Et là, c'était hyper émouvant parce que, d'abord, alors, Ouest-France, les pages Chantonnay, donc, avaient fait un papier. En disant Patricia Touranchaud, l'enfant du pays en dédicace. Et dans ce papier, je parlais de mes maîtresses d'école. Je citais quatre noms de maîtresses du primaire qui m'avaient permis de lire et d'apprendre à écrire, de faire des compositions, etc., et que j'avais adoré. Et donc, ces quatre maîtresses sont venues tout ensemble à l'Hyper-U de Chantonnay, dont une n'était pas sortie de chez elle depuis 6 mois, Madame Billot, ma prof de CM2. Et elle était là, accrochée à son chariot de supermarché avec les autres qui la soutenaient. Mais franchement, c'était à pleurer, c'était hyper émouvant, quoi.
Ah oui, bah là, je suis moi-même très émue. Vous avez quitté la Vendée dès la seconde pour un internat à Nantes. Et vous vous imaginiez interprète ou travaillant dans le tourisme ?
Bah oui, je sais pas trop... Pourquoi ? Parce que en fait, c'est pas si vrai que ça. J'ai retrouvé des documents depuis qui... Enfin, franchement, je savais pas trop ce que j'allais faire.
Des documents sur vous-même ? C'est-à-dire que vous faites des enquêtes sur vous-même aussi ?
Après ce livre-là, il y en aura un plus personnel.
Ah.
Voilà, plus personnel.
Vous avez fait des études de sociologie. Est-ce qu'elles vous ont permis de mieux comprendre l'âme humaine?
Oui, franchement, la sociologie, c'est génial. Ça m'a permis de comprendre un peu mieux que les fonctionnements de la société. Et je pense que ça me sert, ça m'a servi après dans ce travail de journaliste.
Êtes-vous difficile à choquer?
Oui.
Depuis toujours? Vous êtes endurci?
Ouais, il faut se blinder.
Comment on fait?
Comment on fait, par exemple, quand mon père est mort, je n'ai pas versé une larme. Je savais qu'il allait mourir, je savais qu'il était malade, et je n'ai pas versé une larme parce qu'il fallait. J'en ai versé une quand on est sorti avec le cercueil de chez nous, et puis que j'ai vu mes camarades des éclaireurs de France qui étaient tous là. Ça m'a fait pleurer. Mais voilà, parce qu'il fallait le surmonter. Je savais qu'il allait mourir, qu'il était condamné, qu'il
Vous êtes
était
fataliste.
Très malade. Non. Je suis pas fataliste, hein, parce que des fois j'essaye d'enrayer le cours des choses à mon petit niveau. Non, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Je savais que ça allait arriver. Ça sert à rien de pleurer. Enfin, ça peut
faire
du bien.
Ça se contrôle pas.
Oui, mais moi, je me suis un petit peu endurcie.
Est-ce que vous éprouvez tout de même du chagrin sans larmes?
Oui, bien sûr. Oui.
Moi, je suis originaire de Pont-Aven. Donc je ne me sentais pas prophète dans mon pays. Je dis, bon, je ne suis pas un spécialiste de l'école de Pont-Aven. Les snipers érudits vont me tomber dessus si je fais un bouquin comme ça. Mais bon, à la réflexion, j'ai constaté qu'il y avait quelque chose à faire, notamment sous l'angle du regard du journaliste. Donc je me suis dit, là, il faut une touche journalistique, un style beaucoup plus direct, plus imagé, plus familier même. C'est quand même plus agréable pour un lecteur lambda pour lire, quoi, finalement.
Alors ça, c'est un homme qui a été important pour vous, Patricia Touranchot. C'est le journaliste d'Ouest-France, Paul Burel, qu'on entend en 2014, et c'est lui qui vous a encouragé.
Ah, mais c'est incroyable. Parce que j'avais déjà fait un journal, enfin, j'avais participé à un journal un peu alternatif, en Vendée, qui s'appelait Galerne. J'avais fait des tas de trucs de journalisme sans jamais imaginer une seconde que je pourrais en faire mon métier. Et donc, ça faisait 7 ans que j'étais pionne dans un lycée, que j'étais, alors là, j'étais en maîtrise de sociologie, et on est en début 84, printemps 84, et à Nantes, dans mon QG, qui était le bar La Provence, je vois Paul Burel, que je connaissais, qui travaillait à Ouest-France, donc c'est une espèce de vieux loup de mer. Et je lui dis, mais Paul, mais qu'est-ce que je vais faire comme métier, quoi? Sociologie, mais ça mène à quoi? Je travaille dans un bureau d'études, j'en ai marre d'être pionne. Et lui me dit, mais Patricia, il y a un métier qui tirait comme un gant. Ah bon? Il me dit, ouais, journaliste. Je dis, non, mais il faut savoir écrire pour être journaliste. Il me dit, attends, premièrement, tu te fous de moi, parce que tu écris des communiqués, tu écris un mémoire de sociologie. Donc, tu sais écrire. Et deuxièmement, tu as les principales qualités pour être journaliste, c'est-à-dire l'empathie et la curiosité. Et je te vois traîner dans ce bar et parler avec absolument tout le monde. Les rockers, les mecs du conseil général, de la mairie, les étudiants, les commerçants. Tu parles à tout le monde et t'aimes les gens. Et voilà. Et là, c'est la révélation. Franchement, dès le lendemain, en fait, je cherche les concours d'école de journalisme que je peux passer, sachant que j'en ai marre d'être à la fac et que je veux pas que ça dure trop longtemps. Donc, je trouve l'IUT de Bordeaux qui fait en un an, en année spéciale, on peut avoir en un an si on a une licence, ce qui est le cas. Et puis, je demande un stage à Ouest-France et donc, je serai prise l'été à Ouest-France, à Douarnenez, dans le Finistère.
Ah bah oui, c'est magnifique endroit d'ailleurs.
Super.
Et alors, dès vos débuts de correspondante à Nantes, parce que tout à l'heure vous avez dit une phrase qui est assez récurrente chez vous, Patricia Touranchot, les faits divers sont toujours venus à moi, eh bien il y a un braqueur, Georges Courtois, je ne sais pas s'il porte bien son nom, qui prend en otage la cour d'assises de Loire-Atlantique, et c'est la toute première intervention du RAID qui vient d'être créée en France, et vous êtes la première sur place.
Alors, je ne suis pas la première sur place, parce qu'il y a la
presse... Mais laissez-moi être un peu romanesque.
Mais non, parce qu'il y a quand même la presse locale, Presse Océan, Ouest-France sont avant moi, et France 3, je pense. Mais en tout cas, à l'époque, le portable n'existe pas, l'ordinateur non plus, etc. Et moi, j'arrive juste comme correspondante de Libération à Nantes, on est le 19 décembre 85, et c'est mon premier jour. Et le matin, je mets la radio et j'entends prise d'otage à la cour d'assises de Nantes. Et là, j'appelle mon chef en panique, en lui disant « Non mais regarde ce qui se passe, c'est énorme, tu m'envoies quelqu'un de Paris et tout. » Il me dit « Mais non, attends Patricia, si ça se trouve, ça va se dénouer en peu de temps. » Eh ben non, ça se dénoue pas et ça dure 36 heures. Et là, du coup, je me rends sur place au palais de justice et à l'époque, voilà, il faut... Alors l'IB me demande de faire tout, enfin, un portrait du braqueur, bah ouais, c'est simple, le braqueur, il est en train de prendre en otage, de couvrir l'événement, etc., etc. Et j'ai encore pas de contact à Nantes, j'ai pas de contact avec la police et tout. Bon, bref, je vais participer, je sais pas combien de papiers, mais ils m'aident à Paris, avec l'AFP, avec etc. Et finalement, les papiers, à l'époque, donc je me renseigne, je réussis à avoir pas mal de gens, pas mal d'éléments, mais les papiers, je les écris sur le coin d'une table dans un bistrot, et ensuite, il faut les dicter à Libération au sténo, en épelant les noms propres, en donnant la ponctuation. Mais c'est l'antiquité. Et ce truc, le temps qu'il m'envoie l'envoyé spécial de Paris, il est arrivé à 21h le premier soir, donc j'avais été obligée de faire plein de papiers. Mais en même temps, Georges Courtois, qui était ce bandit, alors en costume, trois pièces, bleu marine à fines rayures, enfin, avec le cigare au bec pendant la prise d'otage, le revolver dans l'autre main, incroyable, avec sa petite moustache, ses rouflaquettes et tout ça. Georges Courtois, en fait, je l'ai retrouvé quand il a été libéré de prison après sa condamnation. Et là, j'ai fait son portrait qui est dans ce livre rubrique Faits divers. Et on est resté en contact très, 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 très longtemps jusqu'à ce qu'il meure.
Grégory a été enlevé devant chez lui alors qu'il jouait sur ce tas de gravier. La dernière menace qu'a pu entendre sa famille était celle d'un homme qui disait au téléphone « Le gamin est dans la Vologne ».
L'affaire a quelque chose de... C'est fascinante, quoi.
Je me souviens de la photo de la bonne tête qu'avait ce gosse. T'es mignon.
Il y a tout ce qu'il faut pour que le fait d'hiver, il intéresse toute la France.
La famille Villemain, c'était une famille ouvrière, des gens très gentils, ouverts. Il y a un élément qui voulait du mal à tous les autres, c'est ce corbeau.
C'est-à-dire cet inconnu qui a harcelé la famille du petit Grégory et qui s'est mis à leur pourrir la vie.
Oui, ce corbeau, il a tué.
Quatre ou cinq personnes parmi les proches de la famille Villemain restent fortement suspectées.
Eh bien, on doit trouver. Ça ne doit pas rester une énigme.
Patricia Tourancheau, vous avez travaillé sur la série Grégory pour Netflix en tant que co-réalisatrice et avez publié en 2018 Grégory, la machination familiale. C'est une affaire que vous avez découverte un été à Libération quand vous découpiez les dépêches de l'AFP dans les locaux. Il y avait beaucoup de dépêches sur l'affaire Grégory. Et tout à l'heure, j'ai dit que j'avais été victime d'une chose qui arrive à beaucoup de lecteurs de journaux. Et il y a eu beaucoup de fausses pistes dans l'affaire Grégory et j'aimerais que vous nous parliez du rôle des médias parce qu'il y avait notamment quelqu'un qui avait la main mise sur plusieurs journaux.
Alors ça, c'est fou. C'est Jean-Michel Bézina et sa femme Marie-France. Il était grand reporter pour RTL dans toute la région Est et donc les Vosges. Et avec sa femme, il trustait en fait une douzaine ou une quinzaine de correspondances de médias. Le Point, Le Parisien, Le Journal du Dimanche, RTL, bien évidemment. Et tout. Et ce type faisait la pluie et le beau temps. Et ce qui est dingue, c'est que dès le départ, Bézina s'est focalisé sur une piste. Lui, il est allé voir le gendarme, le capitaine Sesma, qui s'occupait de l'enquête dès le lendemain de la disparition de Grégory. Et il lui a dit « Croyez-en ma vieille expérience, c'est la mère. » Et le capitaine Sesma lui dit « Mais attendez, mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça ?» Et Bézina lui a rétorqué « Mais croyez-en ma vieille expérience, c'est la mère. Et je vous parie une bouteille de champagne que c'est elle. » Et le problème, c'est que ce type, il va faire énormément de mal, puisque une fois la première piste du suspect cousin germain de Jean-Marie Villemain, Bernard Laroche, évacué, celui-ci libéré, enfin il avait été incarcéré, et la justice, le petit juge Lambert, s'est retourné, un peu influencé aussi par les avocats de Laroche et par le matraquage médiatique des Bézina, va se retourner contre Christine Villemain. Et donc, ça va être dramatique.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Patricia Tourancheau, vous publiez au Seuil rubrique Faits divers, recueil de 69 articles publiés entre 90 et 2015 dans Libération, parmi vos 3000 à 3500 papiers. Et je pense que le mieux, c'est de vous écouter lire le tout début, parce que ça va donner une bonne idée de ce dont sont faites vos journées.
Ok. Criminels, policiers, braqueurs, légistes, escrocs, kidnappeurs, espions, terroristes, trafiquants, faussaires et serial killers ont été mes clients attitrés durant mes 25 années Libé à Paris. Assassinats, viols, écoutes, évasions, enlèvements, arnaques, corruption, hold-up et attentats ont été mes sujets dévolus de 1990 à 2015. Violents, menteurs, ripoux, jaloux, fourbes, retors, crapules, brutes, haineux, traîtres, redresseurs de tort, vicelards, magouilleurs et psychopathes ont peuplé les pages société de Libération.
Un de mes cinéastes préférés, Jean-Pierre Melville, traite les flics et les voyous de la même façon dans ses films et on sent une tendresse pour les deux. J'imagine que ça vous caractérise aussi, Patricia Tourancheau.
Bah, je pense que je ne me comparerai pas à Melville, mais en tout cas, là, sur ce plan-là, je peux avoir de la tendresse ou de la sympathie, peut-être pas la tendresse, mais pour certains flics et pour certains bandits, pareil.
Et ça vous est déjà arrivé de les mélanger dans certaines fêtes?
Ouais, non, j'aime bien les mélanger dans des soirées ou dans mon pot de départ de Libération en 2015. Ils se retrouvent, ils sont assez contents de se voir.
Les analyses sont tombées, c'est le même homme.
Je veux qu'on lance un avis de recherche sur les 7 homicides.
C'est une course contre la montre, messieurs, il faut qu'on fasse vite.
Le code génétique a été baptisé SK1, Serial Killer numéro 1. C'est le premier tueur en série dont on a l'empreinte génétique.
Vous avez fait un travail impressionnant.
Je suis juste celui qui a traqué le monstre pendant 7 ans.
Et moi, je suis celle qui traque l'homme derrière le monstre.
L'ADN a parlé. Il s'appelle Guy Georges.
Pourquoi tu les as tués, Guy ?
2015, le film L'Affaire SK1, adaptation cinématographique par Frédéric Tellier de votre livre Guy Georges, la traque, Patricia Tourancheau, film sur lequel vous étiez consultante. On a entendu Nathalie Baye dire une phrase que vous dites aussi d'ailleurs. Guy Georges ouvre votre ouvrage avec le chapitre consacré au tueur en série. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout à l'heure, vous décriviez comment vous écriviez les articles à l'époque où il n'y avait pas de téléphone portable, pas internet et pas d'ordinateur. Mais il y a plein de choses où on a fait des progrès sur les enquêtes. Il y a quand même une époque où il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas de fichier centralisé et on n'appelait pas les multirécidivistes des serial killers.
Non, ils les appelaient des criminels, enfin oui, des multirécidivistes ou des criminels multiples. Mais c'était un terme un peu tabou à la crime à Paris parce que ça résonnait un peu trop américain à leur goût et de la même manière que les profilers, ils ne voulaient pas en entendre parler non plus les enquêteurs criminels français parce que ça faisait trop penser au silence des agneaux, et que pareil pour eux...
Inspiré par un vrai serial killer.
Par un vrai, ouais, Ed Gein, qui est un vrai serial killer américain, qui a inspiré beaucoup de films, dont Psychose d'ailleurs, et Massacre à la tronçonneuse. Et voilà, les Français, les policiers français avaient une aversion pour ça, et puis après quand même l'arrestation de Guy Georges, ils sont aperçus de l'ampleur du phénomène. La France a enfin créé en juin 98 ce fichier national des empreintes génétiques, et là finalement, derrière, ils ont adopté une psychocriminologue qui est venue à la crime, et puis la notion de serial killer.
Vous notez que les tueurs en série ont souvent des failles profondes datant de la petite enfance, et certains d'entre eux, chose étonnante, semblent conscients d'être dangereux. Par exemple, Guy Georges savait que sa libération serait une mauvaise chose. Ça revient chez plusieurs d'entre eux.
C'est-à-dire que Guy Georges a dit à la fin de ses aveux à Sidney, le policier principal qu'il a fait avouer, qu'il ne fallait pas qu'il sorte, parce que quand il est entre quatre murs en prison, il ne ressent pas ses pulsions, mais que parfois, quand il sort, il y a des moments où il se sent comme une cocotte minute, et puis ça explose, et du coup, il commet un crime.
Toujours cruel, Pierre-François ?
Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société.
Et vous avez tué beaucoup de monde ces temps-ci, Pierre-François ?
Non, mon ange. Voyez, aucune trace de sang. Seulement quelques taches d'encre. Mais rassurez-vous, Garance, je prépare quelque chose d'extraordinaire. Vous avez tort de sourire, Garance, je vous assure. Je ne suis pas un homme comme les autres. Mon cœur ne bat pas comme le leur. Vous entendez absolument pas. Avez-vous déjà été humilié, Garance ?
Non, jamais.
Moi non plus. Mais ils ont essayé. C'est déjà trop pour un homme comme moi.
Quand j'étais enfant, j'étais déjà plus lucide, plus intelligent que les autres.
Ils ne l'ont pas pardonné. Ils voulaient que je sois comme eux. Que je dise comme eux. Levez la tête, Pierre-François. Regardez-moi. Baissez les yeux. Et ils m'ont meublé l'esprit de force avec des livres. De vieux livres. Tant de poussière dans une tête d'enfant.
Dans la mythologie criminelle, ceux qui passent à l'acte fascinent. Gilles de Rais, qu'on croise dans votre ouvrage, Patricia Touranchot, on le retrouve dans L'Abat de Huysmans. Marcel Barbeau a été défendu par Georges Simenon dans Paris Match, qui le qualifiait de schizophrène parfait. Ça, je l'ai appris grâce à vous en vous lisant. Et là, on entend Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet, sorti en 1945. Marcel Errand, dans le rôle de l'ancien commis voyageur criminel et vengeur de l'humanité. Pierre-François Lassner. Comment expliquer cette fascination et ce romantisme, presque, et je mets évidemment des guillemets aux mots, qu'exercent les criminels ?
Je pense que les gens sont fascinés ou attirés parce que c'est la façon de l'être humain. Et quelque part, tout le monde, quelque part, a des fantasmes ou des meurtres. Enfin, dès qu'on est en colère contre quelqu'un ou que quelqu'un nous a trahis, on dit non, mais celui-là, je vais le buter. Sauf que nous, on va jamais le faire, on va jamais passer à l'acte. Et il y en a. Et donc, ceux qui passent à l'acte, pour différentes raisons, captivent les autres qui se demandent comment ça se fait, comment il peut en arriver là, quoi.
La transgression ultime.
Ouais, la transgression ultime.
Est-ce que vous faites des cauchemars ?
Rarement.
Alors, parfois vous donnez des détails assez glaçants, comme au sujet du très beau Claude Lasténel, l'étrangleur de mamie, qui s'est inspiré du romantisme macabre avec quelque chose... Bon, il a eu l'idée par le vampirisme. Je vous laisse raconter ce que c'est.
En fait, Claude Lasténet, qui est un type très, très jeune, hein, il avait 24 ans, une gueule d'ange, un regard de mort-vivant, qui a fait peur même à son avocat et à la psychologue. Lui, il a étranglé, il a tué des mamies. Et en fait, il trempait son petit doigt dans le sang et il le buvait.
Qui coulait du nez ou des oreilles.
Voilà, de ses victimes. Et c'est dingue. Il avait l'impression que ça le régénérait, en quelque sorte.
Alors, ce qui frappe aussi, parce qu'il y a beaucoup de paradoxes, c'est que les criminels sont parfois en couple avec des étudiantes en psychologie, voire des psychologues comme Patrice Allègre. Alors ça, c'est surprenant quand même.
Ouais, mais ça, c'est récent, et puis c'est fini, hein, cette histoire de...
Non, mais que ce soit fini ou pas, c'est amusant de se dire qu'un criminel se met avec quelqu'un qui sonde l'âme humaine dans son métier.
Ouais, mais ça, c'est n'importe quoi. Enfin, je ne sais même pas si cette dame était psychologue. Ça, c'est le phénomène de toutes ces femmes qui peuvent approcher des tueurs en série en prison et s'imaginer qu'elles vont le sauver, l'idéaliser.
Ça, c'est récurrent, il y en a plein qui se marient avec des tueurs en prison.
Ouais, mais... Ouais, c'est un phénomène qui me dégoûte un peu.
Alors, parlons de Spinoza, pour aller un peu vers la lumière, mais quand même, il y a ceux qui changent en prison, comme l'ancien truand et roi de l'évasion Francis Besse. François Besse, pardon, sauvé par Spinoza. Et puis, il y avait aussi Louis Althusser, qui avait tué sa femme, qui était un grand amateur de Spinoza. Alors, je voudrais savoir, est-ce que Spinoza est dangereux ?
Mais non ! Spinoza a aidé François Besse, qui était quand même l'associé de Jacques Mérine et qui s'était évadé six fois. Enfin, il s'est évadé six fois, il a fait 23 ans de prison, mais c'est en prison, sa dernière peine. En fait, c'est Spinoza qui l'a sauvé, c'est la philosophie, c'est de retrouver, c'est de réfléchir, c'est de enfin réfléchir à ce qu'il faisait de sa vie. Et il a réussi une métamorphose exceptionnelle, quoi.
Votre choix musical, Patricia Touranchot, Fait d'hiver, de ouais. Téléphone.
Ouais, parce que cette pauvre fille, enfin, elle me touche cette chanson, je l'aime beaucoup.
Vous l'avez choisie aussi pour le festival Quai du Polar.
Oui, alors je m'en souvenais plus.
Enfin, moi, je l'ai vue sur le site.
Ah, ok. Ouais, parce que festival Quai du Polar, c'est le plus grand festival international. C'est absolument génial. Il y a 250 des meilleurs auteurs de polar au monde.
Et vous y serez en avril.
Et je suis très fière, très, très contente d'y aller aussi.
Alors, je sais que vous aimez James Ellroy, mais dans les livres, je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs et vous avez choisi une écriture magistrale au service d'un vrai fait divers, c'est Truman Capote de sang-froid.
Ouais, c'est classique, mais Truman Capote, en faisant ce chef-d'œuvre en fait en 1966 sur un fait divers qui s'était passé en 59, un quadruple meurtre par deux jeunes marginaux qui n'avaient aucune raison de faire ça en fait. Truman Capote, l'écrivain, en a tiré un roman phénoménal et a inventé un nouveau style littéraire à partir d'un true crime, d'une vraie histoire qui s'appelle roman non-fiction. Le narrative non-fiction, c'est un peu ce que tendent à faire pas mal d'écrivains actuellement. Moi, je me considère pas comme une écrivaine, juste comme une auteure, mais je me dis, je fais des récits du réel, mais voilà, c'est un peu quand même mon idole.
Simplement, pour le plaisir, nous avons choisi I Can Get No Satisfaction des Rolling Stones parce que nous savons votre goût pour ce titre, Patricia Tourancheau. Et là, à nouveau, on parle de choses sérieuses.
Des dizaines de diamants dessertis, de l'or, du platine, des montres à gousset, des montures de bijoux écartelées, des pièces d'or pour plus d'un million de francs, des passeports vierges, des armes, plus de 350 000 francs liquides, de quoi tenir un siège et organiser une cavale de vous au vol. Belle prise pour la police.
Ce serait présomptueux de dire que c'est le noyau des postiches. Par contre, à l'évidence, a été interpellée ce matin l'équipe la plus ancienne, la mieux structurée et la plus dangereuse de ces gangs de postiches.
André Belaïch, 36 ans, déjà condamné à mort par contumace depuis une prise d'otage en 75 à Paris, un des fondateurs des postiches. Il était emprisonné en Italie avec Esposito depuis quelques mois. Ils s'évadent tous les deux par hélicoptère de cette prison romaine, voilà 3 semaines.
Le JT présenté par Isabelle Bechler en 1986 sur France 2. Patricia Touranchot, vous avez écrit Le Magot, Fourniret et Le Gang des Postiches, Mortelle Rencontre, et aussi Les Postiches, un gang des années 80. Alors Fourniret, on l'a déjà évoqué, mais je veux dire là, c'est un film de super-héros, sauf qu'il n'y a pas de super-héros, c'est simplement horrible, avec des escrocs et des assassins qui se rencontrent, c'est totalement improbable, et c'est vous qui aviez révélé le scoop. Donc oui, c'est dingue, ça je ne vais pas vous demander de le raconter, mais je peux renvoyer vers vos livres. En revanche, Le Gang des Postiches, il y a un type dedans qui a attiré l'amitié, non, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais qui a attiré l'estime d'un flic qui le trouvait très attachant. Il y a une histoire de plâtre.
Ah mais c'est pas dans l'histoire des postiches.
Ah pardon, non, c'est Ferrara.
Ouais, c'est pas grave.
Pardonnez-moi.
Non. Ouais, c'est-à-dire que Antonio Ferrara, c'est un autre type de braqueur plus jeune que les postiches, hein, qui s'était évadé de la prison de Fresnes avec à la manière d'une attaque de fourgon blindé. En fait, il y a un commando qui est venu le délivrer en 2003 et par la suite, 4 mois plus tard, il se fait rattraper et le commissaire Molmy, qui est un de ceux qui l'arrête en fait, lui donne un pain et en fait se casse le bras, se fracture le bras et il va se faire plâtrer. Au retour, il va en garde à vue voir Antonio Ferrara et en fait Antonio Ferrara lui a signé sur son plâtre sans rancune, signé Nino Ferrara.
C'est quand même très rigolo si on met de côté tout le reste. La frontière est fine entre les flics et les voyous et puis il y en a parfois qui passent de l'autre côté, notamment Pascal Jumel, un flic passé du côté des voyous, et Le Grélé, François Vérov.
Ouais, alors Pascal Jumel, il est dans ma partie Flic Story de rubrique Faits divers. C'était un type qui était chef du groupe Nuit de la brigade de répression du banditisme et qui se fait interpeller, enfin, en 85-86. Il a commis, en fait, des hold-up, des braquages, mais de supermarchés, de rayons bricolage, enfin, des trucs un peu bizarres. Il a dépouillé des fourreurs yougoslaves, de plein de fourrures, enfin, c'était un peu minable. Il rêvait d'ailleurs de faire partie du gang des postiches, ce type-là, ce qui était dingue, et de piquer le magot des postiches, ce qui était encore une autre histoire. Et Pascal Jumel est tombé comme un ripou. Et plus récemment, voilà, on a appris... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire du Grélé, qui était un tueur et violeur en série de petites filles, d'adultes, enfin assez éclectique, qui a sévi de 1986 à 94, qui a disparu. Au bout de 35 ans de traque de la brigade criminelle, on s'aperçoit que le mec, le Grélé s'appelait François Vérov et qu'il était gendarme à la garde républicaine à Paris au plus fort de ses crimes, puis rentré dans la police nationale.
Alors là, c'est du Jim Thompson, vraiment.
C'est faux.
Il y a un passage dans votre livre sur les escrocs. Vous notez qu'ils sont souvent charmants et flamboyants, avec beaucoup d'imagination. Et vous citez Christophe Rocancourt et vous livrez l'anecdote. Et vraiment, j'ai ri pour apprendre l'anglais à Los Angeles.
Alors, Rocancourt m'a raconté qu'il a débarqué aux États-Unis, à Los Angeles, avec 2 Bibles. Il s'est acheté une Bible en français, une Bible en anglais, et que c'est grâce aux 2 Bibles qu'il traduisait et qu'il a appris l'anglais.
C'est, je crois, la chose la plus admirable qu'on peut trouver chez lui, vraiment.
Alors, je sais pas.
David Cronenberg a fait le film Mr. Butterfly, et c'est une histoire vraie.
Ouais, c'est Chip et Pouille, c'est une taupe, enfin c'est une histoire d'espionnage absolument hallucinante.
Vraiment, c'est extraordinaire. Bon, qu'est-ce qui me reste le temps de vous poser comme question? Si il y a un bandit qui sort du lot selon vous, c'est un rarissime Robin des Bois, c'est l'anarchiste maçon espagnol Lucio Urtubia.
Ouais, Lucio Ortubias, c'est un peu mon chouchou dans l'histoire. J'ai fait son portrait en 2000 et en fait, ce type, il a été toute sa vie maçon, réfugié espagnol, et en même temps, il a monté une gigantesque arnaque au Traveler Check, qui était des espèces de tickets de voyage, de chèque voyage de 100 ou 200 dollars. Lui, il a reproduit ses Traveler Check de la First National City Bank américaine. Il envoyait des groupes, en fait, des binômes l'échanger dans les banques des capitales européennes. Il récupérait un tiers de l'argent pour racheter du matériel. Un tiers, c'est le binôme qui gardait l'argent. Et un tiers qui mettait dans une caisse pour financer des causes révolutionnaires, en fait, dans le monde entier, notamment en Amérique latine, où il finançait des groupes qui luttaient contre des dictatures, lui-même ayant vécu la dictature de Franco. Donc, il aidait aussi des prisonniers basques, des prisonniers espagnols, des anarchistes, etc. Donc, et lui, c'est le vrai Robin des Bois parce qu'il a redistribué ses richesses.
Donc il y a de bons bandits. Ils sont rares, mais il y en a.
Voilà.
Vous avez déjà eu peur ?
Oui, un peu, mais ça, c'est rien. Franchement, c'est rien. Par rapport au nombre de, non, mais au nombre de sujets que j'ai fait, c'est rien.
Merci beaucoup, Patricia Touranchot.
Merci à vous, Eva, c'était super.
Nos voisins suisses pourront vous rencontrer le 22 mars au Salon du Livre de Genève. Rubrique Faits divers est parue le 14 mars au Seuil. Vous serez à la librairie Libre à lire à Paris le 26 mars prochain de 19h30 à 21h30. Vous serez l'invité du festival Quai du Polar les 5 et 6 avril prochains à Lyon. Et votre livre sur l'affaire Grégory Villemain a été réédité en poche il y a quelques mois en édition revue et augmentée aux éditions Point. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Guillaume Roux. À demain, 20h10.